J'espère que voilà, tout le monde va bien. Bienvenue dans les locaux de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, dans le cadre de ce séminaire CIFEM sur le thème du travail, donc le chrétien au travail. Soyez les bienvenus. Je voudrais juste commencer par un rappel. C'est que si vous souhaitez faire un don pour avoir une participation dans le cadre de ces séminaires, il faut que ce don soit adressé au nom de GRACE, G-R-A-C-E, qui est le nom de notre association Loi 1901. Et tout simplement, vous pouvez mettre le chèque dans la petite boîte bleue qu'il y a là-bas sous l'extincteur. Simplement ce petit rappel. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter notre orateur. Mais avant de le présenter, je voudrais présenter son épouse, Anne, avec le petit Rubens, qui sont là. Soyez les bienvenus à toute la famille. Joël est pasteur de l'église réformée baptiste de Domaine. Il s'est formé à la faculté Jean Calvin, faculté de théologie évangélique de Jean Calvin, qui est à Aix-en-Provence. Et donc ce soir, c'est lui qui va être notre orateur. Nous allons commencer tout de suite, hein, je vais lui passer la parole, je vais juste prier, mais avant ça, je vous rappelle les horaires. Nous avons une première session jusqu'à 19h30 avec un temps de questions-réponses. Joël va nous faire un exposé biblique et puis ensuite, voilà, il y aura un temps où vous pourrez poser toutes vos questions en lien avec le thème. Et puis à 19h30, nous ferons une pause pour le temps du repas. Et je vous invite pour l'entretien des locaux à ce que nous montions tous à l'étage. On a une grande salle là-haut avec un petit coin cuisine où vous pourrez réchauffer vos plats. Éventuellement, il y a des tables, il y a des couverts. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Les membres de l'église ici pourront vous aider à trouver vos repères. Et puis, nous reprendrons à 20h15. 20h15 précise afin de finir à 21h30. Voilà, donc vous voyez, nous avons du temps pour voilà, et le deuxième temps aussi sera tout à fait possible. Enfin, il y a un temps prévu de questions-réponses aussi à la fin de ce temps-là, et même peut-être qu'il pourra être plus large s'il y a des notions, vous avez des questions en lien avec le travail qui n'auront pas été traitées avec le thème directement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Joël, y compris sur l'eschatologie, y compris sur la création, y compris sur... enfin voilà, non, en lien avec notre thème, bien sûr, il est disponible pour répondre à toutes vos questions. Il a été distribué le plan de chaque intervention avec le texte biblique. Voilà, il en reste quelques exemplaires devant. Si vous n'en avez pas et que vous désirez le plan de l'intervention, n'hésitez pas à vous servir. Écoutez... Voilà, il ne me reste plus qu'à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons ce soir de pouvoir sonder ta parole, sonder ta pensée. Merci parce que tu es le Dieu créateur, le Dieu qui est le Dieu du travail, qui nous a créés, qui nous a fait ce don-là. Seigneur, nous vivons, nous le savons, à une époque qui est troublée, où le travail est quelque chose aussi d'anxiogène. Et Seigneur, ce soir, nous te prions que ton esprit puisse éclairer nos cœurs afin que tu puisses réformer notre vision du travail et que nous puissions voir le travail comme toi tu le vois. Et notre prière est que cet enseignement puisse nous aider dès ce lundi à vivre le travail de façon renouvelée pour ta gloire, renouvelée pour que nous trouvions notre joie aussi dans notre travail, même s'il est difficile et pénible. Nous te prions pour que tu changes nos cœurs. Alors Seigneur, agis s'il te plaît et bénis-nous au travers du ministère de Joël maintenant. Au nom de Jésus, amen. Juste un petit mot, viens Joël, je t'en prie, approche-toi. Nous voulions vraiment aborder la thématique du travail dans la série que nous avons eue, enfin les derniers séminaires que nous avons eus ici à l'ECE. Nous avons abordé des choses qui étaient assez pratiques et qui touchaient, qui étaient en lien avec la vie chrétienne de tous les jours. Nous avions abordé l'année dernière toute la question de la piété, du culte personnel, aussi du témoignage au quotidien de l'Évangile. Et le travail est un sujet éminemment important, puisque c'est le lieu où nous passons tous la plupart de notre temps. La plupart de notre vie se vit sur le lieu du travail. Et donc nous croyons que Dieu a vraiment quelque chose à nous dire et nous voulons recevoir un encouragement de sa parole et cette vision renouvelée pour que nous puissions, en tant que chrétiens, vivre le travail d'une manière authentiquement différente que si ne nous l'étions pas. Puisque Dieu existe et que Dieu a créé le travail, nous devons le vivre différemment et c'est pour ça que nous souhaitions avoir ce temps de séminaire. Et merci Joël d'avoir répondu, d'avoir préparé tout ça pour nous et on a hâte de t'écouter.
Avec plaisir, c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, donc bonsoir à chacun et merci d'avoir fait l'effort un samedi soir de venir m'écouter, je suis très, très reconnaissant de vous voir aussi nombreux. On va aborder, comme Raphaël a pu le dire, un sujet qui est extrêmement important à mon sens, qui est ce sujet du travail. Les sociologues décrivent notre civilisation comme une civilisation des loisirs, c'est sans doute vrai. Néanmoins, le travail reste la plus quotidienne des occupations et des préoccupations humaines. Seulement, tout le monde ne voit pas le travail d'un même œil. Raison d'être et moyen d'épanouissement pour les uns, le travail est au mieux pour beaucoup, le gagne-pain qui permettra de tenir, entre guillemets, jusqu'à la retraite. Alors comment situer le travail dans une perspective biblique? Comment vivre en tant que chrétien dans le monde du travail d'aujourd'hui? C'est les questions auxquelles on va tenter de répondre ensemble ce soir en deux temps. Donc vous l'aurez compris, il y aura deux messages. D'abord, nous parlerons, comme vous pouvez le voir sur cette feuille que vous avez dû recevoir. Est-ce que tout le monde en a une de ces feuilles? Si jamais il y en a encore devant, servez-vous, ce sera utile. Il y a le texte biblique et puis il y a le plan. D'abord, nous parlerons de la réalité du travail. On va poser le cadre, si vous voulez, pendant cette première heure. Ce sera peut-être un peu plus théorique que la deuxième heure. La deuxième heure, je la veux vraiment pratique et concrète. Mais donc, dans cette première heure, on va poser les deux grands fondements que la Bible elle-même nous donne en Genèse chapitre 1, 2 et 3. Quels sont ces deux grands fondements? Eh bien, d'une part, le travail est bon. Il y a une bonté inhérente au travail, c'est ce que le récit de la création nous révèle. Mais d'autre part, le travail est aussi, dans une certaine mesure, vain. Il y a une vanité, une futilité associée au travail. C'est ce que le récit de la chute nous rappelle. Et il y a un équilibre à trouver, d'accord? Quelque part, là, entre les deux, il y a un équilibre à trouver entre cette double réalité de la bonté et de la vanité du travail. Donc, voilà pour cette première heure. Et puis, dans la deuxième heure, nous parlerons du renouveau du travail par l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile change? Qu'est-ce que l'Évangile nous donne? En quoi le fait d'être chrétien nous équipe pour vivre notre travail à la gloire de Dieu? Et possiblement, ce deuxième message est plus important que le premier. Donc, restez pour le deuxième message, parce que vraiment, les deux messages vont se compléter. Si vous n'avez que le premier, il va vraiment vous manquer un aspect important, je pense. Donc, voilà pour le menu. Et avant de lire ces quelques versets dans le livre de la Genèse que vous avez sur la feuille, je m'empresse juste de préciser quelque chose. Je n'ai pas encore 30 ans. Donc, je me rends bien compte que la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, vous avez beaucoup plus d'expérience professionnelle que j'en ai. Je le sais, j'en ai un peu d'expérience professionnelle, pas autant que vous. Donc, loin de moi l'idée de vous faire la leçon ce soir sur le travail. Vraiment au contraire, mon objectif ce soir, c'est de stimuler la réflexion, une réflexion commune sur le sujet. Et donc, le temps de questions et réponses, je le vois aussi comme un temps de partage. Donc, n'hésitez pas, pendant le temps de questions et réponses, à juste rebondir sur ce qui a été dit, à partager de vos expériences à vous. Il y a certainement plein de choses qu'on peut tous apprendre les uns des autres sur le sujet. Comment vivre son travail selon une perspective biblique, c'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir ensemble. Alors, lisons ensemble ce premier texte tiré de Genèse chapitre 1, 2 et 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelques jours plus tard, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et puis, bien plus tard, après la chute, Dieu dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Voilà, jusqu'ici. Premièrement, ce sera mon premier point, ce passage nous rappelle la bonté du travail. Pourquoi voulons-nous travailler ? Je ne sais pas si vous avez déjà été au chômage, je l'ai été, et je peux témoigner, comme plusieurs d'entre vous certainement, du désarroi profond qu'on peut ressentir lors de la perte d'un travail. Je lisais dernièrement un article qui est paru cet automne dans le Nouvel Observateur, où le journaliste parlait de la santé des chômeurs. Et il reprenait une étude publiée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui établit que vous avez 3 fois plus de risques de tomber en dépression si vous êtes chômeur que si vous ne l'êtes pas. Le but de l'INSERM, bien sûr, c'est de démontrer que le chômage n'est pas juste un problème économique, mais un problème de santé publique aussi. Stress, perte du sommeil, dépression, perdre son travail et avoir du mal à en retrouver nuit gravement à la santé. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi avons-nous besoin de travailler pour s'épanouir? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est ce que les toutes premières pages de la Bible nous disent en Genèse 1 et 2, et en particulier les 3 premiers versets. Qui nous sont tellement familiers qu'on ne se rend même plus compte à quel point ils disent quelque chose d'absolument unique. Relisez-les avec moi, ces versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Enuma Elish ? Ça dit quelque chose, ce nom? L'Enuma Elish, c'est un mythe babylonien qui raconte la création du monde. Il y a toutes sortes de mythes qu'on trouve comme ça, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie ou ailleurs, qui racontent la création du monde. Et l'Enuma Elish est l'un d'eux, peut-être le plus connu, et il raconte comment le dieu Marduk aurait créé le monde. Alors comment s'y est-il pris? Il nous a dit qu'au commencement, Marduk a tué un autre dieu, la déesse Tiamat, et avec son cadavre, il aurait créé l'univers. Et vous voyez, dans ce récit, comme dans tous les grands mythes antiques, la création est le résultat d'un conflit, d'une lutte de pouvoir entre les dieux. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la Bible, pourquoi ? Parce que le dieu de la Bible n'a aucun rival. Dans la Bible, la création est le résultat de l'ouvrage habile et patient de Dieu. J'aime bien cette expression de Timothy Keller, qui a écrit ce livre que vous avez peut-être lu, certains d'entre vous, que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas fait, « Dieu dans mon travail », il dit « Dieu a créé le monde non pas comme un soldat creuse une tranchée, mais comme un artiste crée un chef-d'œuvre. Ainsi, donc, au commencement, Dieu travaillait. Le travail n'est pas un mal nécessaire qui aurait été ajouté au tableau plus tard, entre guillemets, ou une chose pour laquelle l'être humain aurait été créé, mais qui serait indigne de Dieu. Non, Dieu travaille, et même plus que non seulement il travaille, mais il prend plaisir à travailler, puisqu'il nous est dit qu'arrivé au bout de sa semaine de travail, en quelque sorte, Dieu contemple ce qu'il a fait et il en est satisfait. Genèse 1, verset 31, « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Est-ce que vous ne trouvez pas fascinant que la première chose que la Bible nous dit sur Dieu, c'est ça? La toute première chose. La Bible aurait pu commencer de plein d'autres manières. La Bible aurait pu commencer où Dieu aurait pu dire « Voilà qui je suis, voilà ce que j'aimerais que vous, êtres humains, sachiez me concernant. » La première chose, « Je suis saint, saint, saint. » Ou « Je suis l'Éternel, un Dieu de grâce, rempli de compassion, lent à la colère, etc. » N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que vous ne trouvez pas fascinant que, n'est-ce pas extraordinaire qu'avant de nous dire toutes ces choses qui sont vraies, comprenez bien, concernant Dieu, mais avant de nous dire que Dieu est juste, bienveillant, saint, tout-puissant, etc., avant de nous dire tout ça, la Bible nous dit que Dieu est travailleur. Travailleur. Un artisan, un entrepreneur, un ingénieur, un artiste. Voilà ce qu'il est, notre Dieu. Le travail aurait-il pu être instauré d'une manière plus glorieuse que ça? Je crois pas. Il y a une bonté inhérente au travail parce que Dieu lui-même travaille. Mais pour revenir à la Genèse, ce qui a peut-être de plus frappant, ce n'est pas de voir ce que Dieu a fait en six jours, mais ce qu'il n'a pas fait. Vous voyez, même si tout ce que Dieu avait créé était très bon, il restait encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, Dieu aurait pu nommer les animaux, mais il ne le fait pas. Il laisse le soin aux hommes de le faire. Il aurait pu garder le jardin lui-même et le cultiver. Mais il demande aux hommes, là encore, d'exercer leur réflexion et leur sens créatif en cultivant et en prenant soin du jardin. En somme, l'homme, nous, devons prendre le relais de Dieu. Comme Dieu le dit en Genèse 1, verset 28, « Soumettez la terre et remplissez-la. » Voilà l'ordre de mission. Deux choses. Soumettez la terre et remplissez-la. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, poursuivez ce que j'ai commencé. J'ai commencé par soumettre la terre, soumettre le chaos informe et vide du départ. Rappelez-vous, les trois premiers jours, Dieu a créé le ciel, la mer et la terre. Donc, c'est trois étendues pour soumettre le chaos informe et vide du départ. Et puis, les trois jours suivants, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis, il les a peuplés. Chacune de ces étendues, en créant les astres et les oiseaux pour le ciel, les poissons pour la mer, et puis les animaux et les hommes pour la terre. Et Dieu dit donc, faites pareil maintenant, soumettez la terre et remplissez-la. Ce qui va au-delà bien sûr de la simple procréation, quand il dit remplissez la terre, multipliez-vous, il s'agit plutôt de construire une civilisation qui glorifie Dieu et qui l'honore. Voilà encore ce que Timothy Keller explique dans ce livre. Écoutez bien, par notre travail, il dit, nous mettons de l'ordre dans le chaos, comme Dieu. Nous créons de nouvelles choses, nous exploitons les processus de la nature et construisons le tissu social de la communauté humaine. Ainsi, que nous fassions de la recherche génétique, que nous pratiquions une opération du cerveau, que nous ramassions les poubelles ou peignions un tableau, par notre travail, nous continuons à développer entretenir ou réparer la structure de la société humaine. Et écoutez comment il conclut. Il dit, de cette manière, nous relions notre travail à celui de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que puisque nous avons été créés à l'image du Dieu travailleur, pour nous aussi, le travail n'est pas un mal nécessaire, mais c'est un besoin fondamental. Pour le dire autrement, le travail n'est pas ce qu'on fait pour vivre, mais c'est ce qu'on vit pour faire. Je répète, j'ai entendu exactement l'inverse cette semaine aux nouvelles, quelqu'un qui disait exactement l'inverse. Selon la Bible, le travail n'est pas ce qu'on fait pour vivre, mais c'est ce qu'on vit pour faire. Nous avons été créés pour travailler. Alors, quelles sont les implications concrètes de cela? Parce que c'est assez théorique ce que je dis là. J'en vois au moins deux implications. D'abord, par rapport à la nécessité du travail, et puis par rapport à la dignité de tout travail. D'abord, tout ce qu'on vient de voir nous dit quelque chose de la nécessité du travail. Je ne vais pas revenir longuement sur la question du chômage, mais quand même. Vous voyez, si le travail n'est pas ce qu'on fait pour vivre, mais ce qu'on vit pour faire, ça doit nous aider à comprendre le chômage tel qu'il est vécu, le mal-être, la détresse. Est-ce que vous avez des chômeurs dans votre église ou dans votre entourage ? Certainement. Nous devons tenir compte de cette réalité, que le travail nous est nécessaire. Nous devons tenir compte de ça pour comprendre l'apathie, le manque d'énergie dont font preuve les chômeurs parfois après plusieurs mois de recherches infructueuses. Parce que vous voyez, c'est facile de leur dire, si vous avez des amis chômeurs, c'est facile de leur dire, voilà, maintenant que tu as du temps, profites-en pour t'occuper, profites-en pour étudier, profites-en pour t'occuper utilement dans ton église, etc., et t'occuper dans une association, etc. C'est facile de dire ça. Mais en réalité, souvent, l'obsession de la recherche d'un emploi, l'inquiétude face à l'avenir, le sentiment d'échec, tout ça paralyse. On n'a plus goût à rien. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de personnes qui profitent du système, qui sont bien contentes d'être au chômage, sans doute que ça existe, et à eux, la Bible a aussi quelque chose à dire. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc la Bible est sans concession avec ceux qui ne veulent pas travailler. Mais beaucoup veulent travailler, mais ne peuvent pas, ne trouvent pas. Et vous voyez, parce que l'Église est un lieu où on comprend la nécessité du travail, l'Église devrait être un lieu où on considère les chômeurs avec respect et on leur apporte un soutien pratique et spirituel. Je pense que c'est vraiment important. Et si vous êtes au chômage vous-même ici ce soir, laissez-moi juste vous dire ceci. Votre identité n'est pas dans votre travail ou votre manque de travail. Votre identité est en Christ. Je sais que c'est difficile dans une société où la première question qu'on se pose quand on se rend compte, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein ? C'est-à-dire, c'est quoi ton travail ? C'est très facile de faire de son travail son identité. Mais votre identité est en Christ, et le Seigneur ne vous laissera pas sans travail. S'il vous a créé pour travailler, il ne va pas vous laisser sans travail. Ce ne sera peut-être pas le travail espéré, ce ne sera peut-être pas le travail le mieux rémunéré, mais il ne va pas vous abandonner. Voilà ce qu'on peut dire sur le chômage d'abord. Parlons de la retraite maintenant. La retraite, comme le chômage, peut être une période déstabilisante. Peut-être qu'il y a des retraités parmi nous. Ça peut être une période déstabilisante et pour cause, parce qu'elle n'est pas biblique. Alors, je vais tout de suite qualifier ce que je dis, je ne vais pas choquer personne, mais comprenez bien, se reposer est biblique. Prendre du plaisir dans la création de Dieu et prendre soin de ses petits-enfants est biblique, etc. Mais la retraite en tant que telle qu'elle est vécue dans notre société, c'est-à-dire l'absence de travail, ça, ce n'est pas en adéquation avec qui nous sommes, créés à l'image de Dieu pour travailler. Et j'aurais envie de dire, visons à travailler jusqu'à la mort, si Dieu nous le permet. Alors, bien entendu, parce que là encore, j'entends peut-être des remarques qui viennent, bien entendu, la quantité de travail que nous arrivons à accomplir diminue normalement à mesure que nous vieillissons, et la forme de nos activités va changer forcément vers la fin de notre vie, bien sûr. En fait, je trouve que c'est même une des tristes réalités de notre société moderne qu'on lie travail et salaire, comme si le seul vrai travail, le seul travail valable était le travail rémunéré. Et c'est un problème, pourquoi ? Parce que ça signifie que bien des travaux valables ne sont pas reconnus et estimés comme ils devraient l'être. Comme par exemple l'éducation des enfants, les travaux ménagers, l'assistance aux personnes malades, le bénévolat, etc. Donc, vous n'avez plus de travail rémunéré, ok, peut-être, mais il reste beaucoup de travail à faire. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être à la retraite, vous ne serez jamais sans travail, si vous le voulez. Voilà pour la nécessité du travail. Et peut-être que juste avant de passer au point suivant, avant de parler de la dignité du travail, on peut juste ouvrir une parenthèse, c'est vraiment une parenthèse, mais sur ce que j'appellerais l'avenir du travail, en lien avec la révolution numérique qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis tombé sur une étude du Forum économique mondial qui se rencontre toutes les années à Davos en Suisse. Ils se rencontrent en fait cette semaine justement. Et c'était une étude parue en 2016 qui estimait que dans les 15 pays les plus industrialisés au monde, 7 millions d'emplois vont disparaître d'ici à 2020. Et 2 millions vont être créés, mais ça reste un total net de 5 millions d'emplois qui vont disparaître. Essentiellement à cause des changements technologiques. On vit ce que certains appellent une quatrième révolution industrielle, la révolution numérique, avec l'ubérisation du travail, la robotisation, la dématérialisation du travail, etc. Et vous voyez, si on estime, comme beaucoup de nos contemporains, que le travail est un mal nécessaire, alors c'est plutôt une bonne nouvelle que le travail aille en diminuant. Mais si on estime que le travail est nécessaire à l'homme, comme je viens de le dire, que nous avons été créés pour ça, alors c'est un peu une autre histoire. Je ne dis pas que... Je ne donne pas de réponse, mais c'est un peu une autre histoire quand même. Comment est-ce qu'on doit accueillir ces mutations dans le monde du travail en tant que chrétien? C'est tout un débat. Je n'ai pas de réponse, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Peut-être qu'on peut en parler tout à l'heure dans le temps de questions et réponses, mais je pense que c'est un point important. Je ferme la parenthèse. On a parlé de la nécessité du travail. Autre conséquence directe du fait que Dieu travaille et qu'il nous a créé à son image pour travailler, c'est qu'il y a une dignité à tout travail. Vous vous rappelez de l'Enuma Elish, ce mythe babylonien dont je vous ai parlé. Il y a un autre mythe qui est très intéressant, c'est un mythe grec cette fois. C'est le mythe de Pandore. Voilà cette femme, Pandore, qui reçoit de Zeus une boîte, la boîte de Pandore. On parle des fois de la boîte de Pandore sans trop savoir de quoi il s'agit. Et Zeus lui donne cette boîte et lui dit « Surtout n'ouvre pas cette boîte, surtout ne l'ouvre pas, jamais, parce qu'elle contient tous les maux, M-A-U-X, de l'humanité. » Seulement, si on vous donne une boîte et qu'on vous dit « Surtout ne l'ouvre pas », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'ouvrir. Et c'est ce que Pandore fait, elle ouvre cette boîte. Et qu'est-ce qui en sort? Quels sont les maux de l'humanité pour les Grecs? Il en sort la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine et le travail. Le travail est une malédiction pour les Grecs. Pourquoi? Parce que pour eux, le monde matériel, le corps, la terre, tout ça est mauvais. L'âme, l'esprit, ça c'est bon, mais l'esprit est prisonnier du corps. Et donc à l'époque, souvent, vous aviez les esclaves qui accomplissaient le travail manuel, en fait, pour permettre aux élites de s'exercer l'esprit au travers de la philosophie, de la politique, des arts, etc. Platon, par exemple, dans La République, écrit ceci. Très intéressant à écouter. Il dit « La nature n'a fait ni cordonnier, ni forgeron. De pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. » C'est indigne. Tout ce travail, le travail manuel en particulier, c'est indigne, c'est dégradant. Voilà ce qu'il dit, Platon. Maintenant, comparez cette vision du monde avec celle de la Bible. La Bible nous montre un Dieu qui a de la boue sous les ongles, en Genèse 1, 2 et 3, parce que Dieu met les mains dans le cambouis, il prend de la boue et puis il crée l'homme et puis il plante un jardin. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur la dignité de tout travail, y compris le travail... considéré comme inférieur, que ce soit le travail manuel, le travail moins bien rémunéré, etc. Que ce soit femme de chambre, concierge, coursier, mère au foyer, etc. Le travail sous toutes ses formes, qu'il soit manuel ou intellectuel, est la preuve de notre dignité d'être humain parce qu'il reflète l'image du Créateur en nous. Et puis aussi parce que la création dont on est appelé à prendre soin est bonne, c'est une bonne création. Quelles sont les implications concrètes de tout cela? Eh bien, d'abord, je crois que ça signifie que nous avons la liberté de choisir un emploi qui corresponde à nos dons et nos passions. Et je dis ça peut-être en particulier aux jeunes parmi nous. Combien de fois, combien de jeunes est-ce que j'ai rencontré qui choisissent une voie, certaines études, un travail, pour se réveiller 5-10 ans plus tard et réaliser que ça ne leur correspond pas du tout? Pourquoi? Mais parce qu'on leur a appris, qui, je ne sais pas, les parents, l'école peut-être, on leur a appris à viser un métier qui ne correspond peut-être pas du tout à leurs dons ou à ce qu'ils aiment faire, mais qui leur permettront de toucher un bon salaire ou qui leur permettront d'avoir un certain prestige. En particulier en France, je trouve. Alors, ne m'attaquez pas, je suis français, je m'implique là-dedans, mais j'ai grandi en Suisse, ma femme est allemande, et puis on a habité plusieurs années en Angleterre, donc j'ai une idée d'un peu des différents systèmes de formation en Europe. Et je trouve qu'on ressent en France, vous me direz si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on ressent une forme de mépris pour les filières d'apprentissage, les emplois manuels. C'est très élitiste, hein, comme si la réussite professionnelle passait forcément par de longues études, des études toujours plus longues, interminables. Ce n'est pas biblique. L'autre implication concrète, et là je pense plus aux jeunes en début de carrière, mais peut-être à vous qui êtes plus âgés et qui êtes en fin de carrière, c'est que nous pouvons être plus ouverts pour accepter un travail quand le contexte économique est difficile et que l'offre est plus rare. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être ouvert à accepter même un travail qui est en dessous de nos qualifications. Beaucoup préféreront être au chômage plutôt que de faire un travail qui est indigne d'eux. Ce n'est pas non plus biblique. Nous avons été façonnés pour le travail et pour la dignité qu'il nous confère en tant qu'être humain, peu importe le statut social qu'il nous procure ou le travail, le salaire qu'il permet de gagner. Peu importe. Voilà les implications concrètes, il y en aurait plein d'autres évidemment, mais qui moi me sont venues en tête immédiatement sur les implications liées à cette bonté inhérente du travail, de tout travail. Mais il y a un deuxième point que nous devons considérer. C'est un peu le revers de la médaille, si vous voulez. C'est la vanité du travail. Pourquoi est-il si dur de travailler ? Si le travail est en soi une bonne chose, pourquoi s'avère-t-il si souvent pénible, inutile et frustrant ? Eh bien, on a un début de réponse, regardez en Genèse 3,17. Dieu dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et écoutez bien ce que Dieu dit ici. Le travail n'est pas en soi une malédiction, mais à cause du péché, il est sous la malédiction de la chute. C'est parce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger que le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Le travail n'est pas une malédiction en soi, comme chez les Grecs. C'est quelque chose de bon, mais nous ne vivons plus dans le monde de Genèse 1 et 2. Nous vivons dans le monde de Genèse 3. Le travail est sous la malédiction du péché. Et quelles en sont les conséquences ? Eh bien, cette malédiction a trois conséquences selon Genèse 3. Le travail est frustrant, verset 18, regardez. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. Il est fatigant, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et il est futile, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La frustration d'abord. Voilà un agriculteur qui a labouré son champ, qui a semé les graines, qui a arrosé, traité ses graines avec soin, mais la canicule arrive. Ou un orage de grêle, ou une épidémie, et paf, toute la récolte est anéantie. Ou voilà un étudiant qui a passé des heures et des heures à préparer un devoir, et en un instant, il perd toute trace de ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'un virus a été installé sur son ordinateur, et tout a disparu. C'est exactement ce que Dieu promet à Adam ici. Tous les jours de ta vie, notez bien ça, c'est pas de temps en temps, tous les jours de ta vie, le sol te produira des chardons, ou des ronces. Quelle frustration. Et n'est-ce pas là quelque chose que vous connaissez dans votre travail, de façon peut-être un peu plus subtile parfois ? N'est-il pas vrai, notamment, que nous sommes capables d'imaginer beaucoup plus que nous sommes capables de faire ? Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Nous imaginons beaucoup plus que nous sommes vraiment capables de réaliser dans notre travail. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas autant doués que nous aimerions l'être, parce qu'on nous met des bâtons dans les roues, parce que nous faisons de mauvais choix, et ainsi de suite. Donc, par exemple, vous avez travaillé des mois sur un projet qui vous tient à cœur, vous êtes vraiment investi dedans, quand brusquement, votre chef décide de laisser votre projet au point mort parce qu'il n'est pas rentable. Et tac, tout ce travail pour rien. Ou peut-être que vous aspirez à un poste depuis longtemps dans votre entreprise parce qu'il implique plus de responsabilités ou un meilleur salaire, ou simplement il a l'air plus intéressant que ce que vous faites, vous vous ennuyez un peu dans ce que vous faites. Mais voilà que votre patron ne vous donne pas ce poste. Peut-être à raison, vous n'avez pas les compétences. Ou peut-être par copinage, par favoritisme, il le donne à un autre. Je parlais avec un ami non chrétien cette semaine, en fait, en début de semaine. Il est mathématicien, il fait de la recherche, donc il est passionné par son travail, il faut l'être pour faire de la recherche. Mais il m'a dit, j'étais vraiment surpris, il m'a dit « j'en peux plus, j'en ai marre de mon travail ». Et je lui ai dit mais pourquoi ? T'es passionné par ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive ? Et il m'a dit mais c'est pas le travail en soi, c'est le système. Il m'a dit « on octroie des fonds pour la recherche à certains et pas à d'autres, pas parce qu'ils ont un meilleur projet ou qu'ils sont plus doués ou qu'ils sont mieux formés, mais juste parce qu'ils ont des amis haut placés ». C'est du copinage, du favoritisme. Et il m'a dit un truc qui, dans un sens, m'a vraiment brisé le cœur, parce qu'il n'est pas chrétien, et je ne savais pas trop comment lui apporter un espoir dans cette situation. Il m'a dit « j'ai perdu toutes mes illusions, parce que j'ai réalisé cette semaine que je ne vais jamais grimper les échelons, je ne vais jamais pouvoir faire carrière. Pourquoi ? Parce que si je veux grimper, je dois entrer dans le système. Je dois me compromettre, je dois copiner. » Et je suis sûr que vous connaissez tous ça. Dans tous les domaines, on le trouve, ça. Il y a des résistances, des ronces qui rendent notre travail frustrant. Je me permets de vous parler, de partager un exemple personnel. Je suis libraire de formation, et dans le milieu de l'édition, de la librairie, vous avez ce qu'on appelle le système de nouveautés. Alors, c'est quoi ? Eh bien, chaque année, des milliers de nouveaux livres sont publiés. Pas tellement parce qu'il y a des milliers d'excellents livres qui méritent d'être publiés, mais simplement parce que les éditeurs vivent sur la trésorerie des libraires. Donc, je vous explique. L'éditeur publie énormément de livres, souvent de mauvaise qualité, pas tous évidemment, mais souvent, mais que le libraire est en quelque sorte obligé d'acheter pour les avoir en stock, pour les avoir dans le magasin. Alors, si au bout de 6 mois, le libraire n'a pas réussi à vendre ses nouveautés, il peut les rendre contre remboursement. Donc, très bien. Seulement, l'éditeur, pour s'assurer qu'au moment du remboursement, il aura assez d'argent pour rembourser le libraire, assez d'argent pour lui rendre l'argent en échange des livres, qu'est-ce qu'il fait ? Il publie encore plus de nouveautés. Comme ça, au moment où il va devoir rembourser, le libraire il devra payer encore plus pour avoir ses livres dans son magasin. Et ça continue comme ça, et c'est un cercle vicieux. Et donc, mettez-vous maintenant à la place d'un petit libraire, d'un employé qui est là dans ce système-là. Vous voilà face à des clients que vous devez conseiller et un rayon où vous connaissez à peu près rien parce que c'est tout des nouveautés. Et puis vous savez que la plupart sont des livres qui ne sont pas très bons, ils ont juste été publiés pour alimenter ce système. Vous êtes coincé parce que soit vous allez mentir en faisant croire aux clients que vous connaissez très bien votre assortiment et que ce sont tous des très bons livres, et là vous allez faire une vente. Soit vous êtes honnête et vous ne vendez plus rien. En bref, vous vous levez le matin et vous êtes perdant. Voilà. Et tout le plaisir du travail disparaît complètement. Le travail est frustrant. Et vous auriez certainement des tas d'autres histoires à me raconter de vos expériences de travail. Tous les jours de ta vie, le sol te produira des chardons ou des ronces. La fatigue ensuite. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Combien de personnes en France aujourd'hui passent 40 heures ou plus à faire le ménage dans des bureaux jusqu'à se casser le dos ? Pourquoi ? Pour arriver à la fin du mois et pas arriver à joindre les deux bouts. C'est ce qu'on vit un peu en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes, n'est-ce pas ? Alors, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire sur le mouvement et j'en partage certaines, mais je comprends la détresse de certaines personnes qu'on entend interroger et qui disent « mais moi, je travaille toute la semaine, j'arrête pas, je jongle entre le travail, les enfants. Pourquoi ? Pour qu'à la fin de la fin du mois, j'arrive juste pas à joindre les deux bouts. » Beaucoup de personnes sont concernées par ça. Un travail pénible, ingrat, salissant. Et dans son livre, L'éthique du travail, que là aussi je vous recommande, il est un peu plus ancien, il est un peu daté, mais je vous recommande, il est intéressant. Robert Somerville a rassemblé le témoignage de personnes qui travaillent en usine ou dans des entrepôts ou à la chaîne. Et voilà l'un de ces témoignages, très instructif, écoutez. Quand on demande aux copains de la chaîne « ça va ?», ils répondent toujours la même chose. Et « vivement vendredi !» Une autre expression fréquente, c'est « il y en a marre ». Il y a très peu de monde à la chaîne qui vient travailler avec plaisir. C'est à cause de la monotonie, du bruit, de la saleté et des dangers. Physiquement, écoutez ce que cet homme dit, hein, il dit « physiquement, je suis à mon travail ». Je le fais normalement, mais mon esprit est ailleurs. Lorsque vous voyez un ouvrier siffler ou chanter à la chaîne, vous pouvez être certain qu'il pense à autre chose qu'à son boulot. Alors on verra tout à l'heure dans le deuxième message si c'est juste comme attitude, je ne crois pas. Et évidemment, je suis conscient que le travail à la chaîne, c'est un cas un peu extrême. Mais quel que soit votre travail, il comporte une part de fatigue, d'épuisement, de lassitude, n'est-ce pas ? Le travail est frustrant, il est fatigant et enfin, il est futile. Très important. Parce que peut-être que vous êtes là ce soir et vous dites « Ok, très bien, mais moi je ne fais pas ce genre de travail. Ce genre de travail dont tu parles, je ne suis pas dans les entrepôts, je ne travaille pas à la chaîne, je poursuis mes rêves, j'ai trouvé le travail qui me permet de m'épanouir. Rien de tout ce que tu as dit s'applique vraiment à moi. » Vraiment ? Ok, peut-être. Mais vous allez faire carrière, vous allez prendre votre retraite, quelqu'un d'autre vous remplacera, vous ne savez pas qui, peut-être qu'il va défaire tout ce que vous aurez fait, et puis un jour vous allez mourir. C'est ce qui est dit ici. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà la futilité du travail. Tôt ou tard, tout le fruit de notre travail sera effacé par le temps qui passe. Et c'est ce que Salomon nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est vraiment très intéressant. Il dit « J'ai détesté le travail que j'ai accompli sous le soleil. » J'ai détesté. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à cette conclusion ? Je vais vous le lire tout de suite parce qu'il nous le dit. Mais Salomon avait compris ceci. Quand nous travaillons, nous désirons avoir un impact, n'est-ce pas ? On a envie de, on veut changer les choses, on veut contribuer à rendre le monde meilleur. Il y a rien de plus satisfaisant que le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui va perdurer dans le temps. Mais Salomon, qui avait bâti le temple de Jérusalem, d'accord, un projet pharaonique, des millions et des millions investis, Salomon qui a fait venir de l'or, des chevaux, des pierres pour bâtir son royaume, Salomon un jour a dû donner son royaume à son fils et au fils de son fils. Et son royaume a été détruit. Et le temple a été rasé. Et il était remplacé par un autre temple, et on l'a oublié. Salomon savait que rien, en fin de compte, rien de tout ce que nous avons accompli ne durera. Alors écoutez bien ce qu'il dit. « J'ai détesté le travail que j'ai accompli sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Et qui sait s'il sera sage ou fou ? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la vanité. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit, même les gens comme moi, Salomon, les rares personnes qui s'épanouissent pleinement dans leur travail, les rares personnes qui parviennent à accomplir ce qu'elles avaient espéré, comme moi, Salomon, même elles doivent reconnaître que tout ça est futile. Tout finira par être effacé, oublié. Donc, par exemple, voilà que vous avez monté une entreprise, c'est votre fierté, c'est votre bébé, comme on dit parfois. Vous vous êtes investi, vous avez méticuleusement préparé votre succession, et au dernier moment, la personne qui devait prendre votre place, que vous aviez formée, choisit un autre poste. Quelqu'un d'autre est pris pour vous remplacer, et en quelques années, il a détruit tout ce que vous aviez patiemment construit pendant toute votre carrière. Ou voilà que vous aviez patiemment gravi les échelons de votre entreprise, vous avez fait carrière en restant fidèle à votre employeur, mais la soixantaine approche, vous êtes en pleine forme, mais on vous fait sentir un peu que vous êtes un has-been, que c'est fini pour vous, que vous coûtez trop cher et que ce serait mieux pour tout le monde que vous partiez en pré-retraite. Et votre carrière qui s'envole en un instant. Si, et le si est extrêmement important, si il n'y a rien d'autre que cette vie sous le soleil, tout notre travail est vain, frustrant, fatigant, futile. Et si le tableau n'était pas assez sombre comme ça, j'espère que je ne vous décourage pas trop pour lundi matin, rassurez-vous, le deuxième message sera un peu plus encourageant, mais si le tableau n'est pas assez sombre comme ça, je vais juste encore rajouter une couche, d'accord ? Parce qu'après Genèse 3, il y a Genèse 4. Et ce qu'on voit en Genèse 4, c'est quoi ? C'est le développement de la technologie et de la culture. Parmi les descendants de Caïn, Lémec a plusieurs fils, et c'est marrant, ils sont tous de grands bâtisseurs, des artisans talentueux, des précurseurs dans le domaine de la musique, de la forge, de l'élevage, etc. Mais quel est le résultat de tout ce travail ? À quoi est-ce que ça aboutit ? Écoutez les paroles de Lémec en Genèse 4. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois, 7 fois. » Ainsi, chaque développement humain s'accompagne d'une multiplication du mal équivalente. Et n'est-ce pas ce que nous observons ? 8 des inventions extraordinaires, l'Internet, la fusion atomique, le moteur à explosion, etc. Mais ces développements s'accompagnent toujours d'une multiplication de la capacité humaine à faire du mal et à nuire. L'Internet nous a donné la pornographie et le cyberharcèlement, la fusion atomique, Hiroshima, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà aussi la réalité du travail. Le travail est non seulement frustrant, fatigant, futile, mais c'est aussi un moyen d'exploitation, de destruction, d'aliénation. Le tableau est sombre en Genèse 3, n'est-ce pas ? Et on vit non plus dans le monde de Genèse 1 et 2, mais dans le monde de Genèse 3. Alors à partir de là, que faut-il faire ? Quelles sont les implications concrètes de ce deuxième point ? J'en aurai 2, et puis je conclurai rapidement ce premier message. 2 implications. Soyons réalistes et soyons reconnaissants. Soyons réalistes d'abord. Cessons d'être naïfs quant au travail. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce qu'on vit à une époque et dans une génération où le travail est devenu une idole. Tout le monde vit pour quelque chose. Même ceux qui ne sont pas religieux, tout le monde vit pour quelque chose. Tout le monde a un temple, tout le monde a un hôtel où il va sacrifier. Tout le monde a quelque chose où il dit « ça, c'est ce qui donne une raison à ma vie. Voilà où se trouve ma raison d'être. » Tout le monde vit pour quelque chose et pour beaucoup, c'est le travail. Le travail est une idole. Mais savez-vous ce que la Bible dit au sujet des idoles ? La Bible dit qu'elles sont des vanités, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont trompeuses, illusoires. Ça veut dire par-dessus tout, elles promettent satisfaction, mais elles vous laissent vides. Et c'est pareil avec le travail. Ces idoles promettent satisfaction. Elles exigent de vous plus qu'elles n'offrent. Elles ne donnent jamais ce qu'elles promettent. Et c'est pareil avec le travail. Si vous vivez pour la réussite professionnelle, pour la carrière, si c'est là que vous puisez le sens de la vie, vous n'aurez jamais fait assez. Il faudra toujours faire plus, toujours monter plus haut. Et si vous ne faites pas la carrière que vous aimeriez, faute de compétences ou faute d'amis haut placés, vous allez vous détester. Vous allez vous détester ou vous allez chercher un coupable. Un coupable, ça peut être vos parents ou vos professeurs qui ne vous ont pas assez poussé pendant vos études. Ou ça peut être votre chef qui ne voit pas votre potentiel. Vous allez vous détester ou vous allez chercher un coupable et vous resterez amer jusqu'à la fin de votre vie. Si vous vivez pour la satisfaction que procure le travail, si c'est là que, si c'est ça qui donne un sens à votre vie, vous serez sans arrêt frustré et à chaque contrariété, vous changerez de travail et vous changerez de travail et encore et encore pour arriver à la fin de vos carrières et réaliser que tout ça aurait été vain et vous serez amer, aigri pour le restant de vos jours. Le travail peut devenir une idole qui promet satisfaction, mais qui vous laisse vide. Et franchement, je pense que c'est le problème de notre génération, la mienne en tout cas, que nous croyons à ces mensonges, que nous croyons à ces promesses vides. On pense devoir trouver notre satisfaction, réaliser notre plein potentiel au travers du travail. Mais écoutez bien, Dieu n'a jamais eu l'intention que vous réalisiez votre potentiel dans votre travail. Dieu n'a jamais eu l'intention que vous trouviez votre satisfaction ultime dans votre travail, mais en lui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que si votre travail actuel ne vous permet pas de concrétiser vos rêves ou toutes vos attentes sur le plan professionnel, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé d'emploi ou que vous n'êtes pas appelé à exercer ce métier. Et ça ne veut pas dire non plus que vous devriez passer votre vie à chercher le travail parfait qui ne vous causera jamais aucune frustration. Ce serait une quête absolument inutile. Au contraire, en fait, attendez-vous à vivre régulièrement des contrariétés dans votre travail, même si vous êtes exactement au poste où vous devriez être. Et j'irai même un peu plus loin. Dieu va vous frustrer délibérément dans votre travail si vous poursuivez cette idole. Et à une époque et dans une génération où nous avons fait du travail une idole, il se peut que certains d'entre nous ce soir doivent se mettre à genoux et dire « Je te demande pardon Seigneur, parce que j'ai été idolâtre. J'ai cru aux promesses vides de cette idole qu'est le travail. Je te demande pardon. » Soyons réalistes d'abord. Et puis soyons reconnaissants. On parle souvent de la crise de la quarantaine. Je ne l'ai pas encore vécue, donc je ne peux pas trop en parler. Mais c'est un peu ce moment, j'imagine, où on arrive en milieu de carrière et où beaucoup de personnes s'ennuient dans leur travail. La quarantaine, c'est un peu trop tôt pour penser vraiment à la retraite, mais c'est déjà un peu trop tard pour faire une vraie reconversion. Et beaucoup de personnes, je pense, en arrivant à ce moment-là, se sont un peu coincées dans leur travail, un travail qui ne les intéresse plus, qui trouvent ennuyant, et ils se disent « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire de mes 20 prochaines années ?» Et j'ai un ami qui est dans le ministère pastoral, qui a la cinquantaine, et il m'a dit qu'il rencontre très souvent des gens dans cette situation, et voilà ce qu'il leur dit, écoutez bien. Il leur dit « Parce que tu as pu faire des études et un travail intéressant, tu as eu le privilège de n'expérimenter qu'à 40 ans, ce que 90% de la population expérimente à 16 ans quand ils sortent de l'école. Bienvenue dans le monde réel. » C'est pour ça que 90% sortent le vendredi soir pour se prendre une cuite, pour oublier. Oublier le vide, l'ennui, l'abrutissement du travail. Ce qu'il leur dit, c'est que tu as enfin découvert, après tant d'années, ce que tant de personnes découvrent quand ils sortent de l'école. Et je crois qu'on... je crois qu'on est aujourd'hui très ingrats, très oublieux de la chance que nous avons de pouvoir faire des études, de choisir un travail, de faire un travail souvent moins pénible que celui de nos parents et de nos grands-parents. Mes deux grands-parents, un de mes grands-parents était horloger, passait des heures penchées sur sa table, sur une petite pièce, l'autre était fermier, des horaires incroyables. Et c'est évident pour moi que la génération de mes grands-parents était reconnaissante d'avoir un travail, peu importe en quoi il consistait, parce qu'il leur permettait de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il y avait une gratitude qu'on doit retrouver, je pense. Surtout en pensant justement que nous vivons dans le monde de Genèse 3 et que malgré tout, Dieu nous permet d'avoir un certain plaisir dans notre travail. Soyons reconnaissants. Et c'est par là que j'aimerais conclure rapidement. Il y a un équilibre à conserver, d'accord ? Même après la chute. C'est ça qui est extraordinaire. Le travail n'est pas aussi mauvais, pénible et frustrant qu'il ne pourrait l'être. Il y a un équilibre conserver, un équilibre qui est visible en Genèse 3, visible dans le fait que le sol produit des ronces, oui, mais aussi l'herbe nécessaire à la vie, verset 18. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. Il y a un équilibre là. Et cet équilibre doit nous éviter de tomber dans l'une ou l'autre de deux extrêmes. Ça doit nous éviter de tomber dans un idéalisme un peu naïf, de celui qui dit « par mon travail, je vais accomplir des choses extraordinaires, je vais m'épanouir à chaque instant, etc. » On ne doit pas tomber dans cet idéalisme un peu naïf, ni dans un pessimisme un peu cynique, de celui qui dit « rien ne change jamais, de toute façon, ne te fais pas d'illusions, ton travail c'est juste un gagne-pain, et puis c'est tout, point barre. » Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si, et le si est extrêmement important, si il n'y a rien d'autre que cette vie sous le soleil, alors oui, tout notre travail est vain, absolument vain. Mais il y a plus que cette vie sous le soleil. Et c'est ce qu'on verra pendant la deuxième heure. L'évangile transforme notre manière de voir le travail. J'y crois vraiment, ça. Ça reste dans le cadre qu'on vient de poser, d'accord, Genèse 1, 2 et 3. Tout ce qu'on a dit reste vrai. Nous vivons toujours dans le monde de Genèse 3. Mais l'évangile apporte un renouveau au travail, une nouvelle perspective, une nouvelle passion pour travailler. Et c'est ce qu'on verra donc tout à l'heure. Mais avant ça, donc on a un temps de questions-réponses, on aura le temps de repas aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vois aussi ce moment, quand un moment de partage, n'hésitez pas juste à rebondir, à donner vos expériences personnelles. Je serais intéressé de voir ce que vous avez pensé, si ce que j'ai dit correspond un peu à votre expérience personnelle. Je vous écoute.
Merci, ouais. Alors on va faire circuler des micros. Vous parlez bien dans le micro pour que ça soit pris dans l'enregistrement pour poser vos questions. Alors, vous pouvez lever la main, c'est le meilleur moyen. On n'a pas encore de télépathe. Voilà, il y en a une là-bas. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, là, on peut avoir un micro qui s'approche d'une autre personne.
Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que tu crois au progrès?
Tu dis ça, j'imagine, par rapport à ce que j'ai dit sur Genèse 4. Oui. Ou c'est ça? Ouais. Ouais. Je pense que c'est un point vraiment, effectivement, qui est intéressant. Je pense que c'est une question qui est difficile, qui est soulevée par ce passage, où on voit que, justement, dès qu'on commence à avoir un progrès technologique et culturel dans Genèse 4, c'est directement accompagné cette multiplication du mal. Je dirais que j'y crois dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, ce qu'on voit en Genèse 4, c'est la lignée de Caïn et pas la lignée de Seth. Et donc, je pense que quand le progrès s'accompagne du réel foi dans le Seigneur et de tout ce qu'on va parler dans un deuxième temps, donc d'une vie de travail qui est vraiment faite à la gloire de Dieu et selon certains principes bien clairs, là, je pense effectivement, là, je crois énormément au progrès. Le problème, c'est que, évidemment, on n'aura pas une société qui obéira au Seigneur tant qu'il ne reviendra pas. Et en fait, ce que je dirais du coup, c'est pas une très bonne réponse sans doute, mais donc, je crois partiellement au progrès. Je pense qu'en tant que chrétien, on peut le vivre. Mais je pense surtout qu'on doit avoir cette perspective qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, il va revenir sur une terre renouvelée. On va continuer à travailler, d'accord ? La perspective de l'éternité pour le chrétien, ce n'est pas un âge d'or où personne ne fait rien, où on est assis sur des nuages à jouer de la harpe. C'est une vie sur terre où on travaille. Et là, il y aura un progrès extraordinaire parce qu'on n'aura plus ces frustrations. On sera parfait. On n'aura plus de limites au niveau de nos talents, au niveau de personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et on va, je pense, pendant toute l'éternité, en fait, progresser. Et toujours plus grandir dans notre connaissance de Dieu en particulier. Donc voilà, c'est peut-être pas la réponse que tu attends, mais enfin voilà, je dirais ceci. Ouais. Ouais,
peut-être qu'il faut. Il y a une distinction entre le progrès et le développement. Il y a une différence sémantique où il y a un vrai développement possible, mais est-ce qu'il y a fondamentalement un progrès de l'homme? C'est tout ce que j'allais dire.
Trop tard.
Quand tu parles du fait que notre travail devient notre idole, moi je reconnais tout à fait mon chef de service. Et du coup, son travail c'est vraiment son idole et il rend ma vie assez compliquée et très difficile. Comment on fait du coup pour travailler avec quelqu'un dont son travail est l'idole ? Peut-être pas de solution, mais...
Je pense que c'est vraiment une question intéressante. Je pense que c'est difficile de réfléchir d'un coup, mais je pense que ce que je dirais, c'est que quand on pense à ce que la Bible dit au niveau des idoles, on s'y retrouve tous, parce qu'on idolâtre tous dans une certaine mesure une chose ou une autre. Et je pense, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense qu'on est tous coupables d'idolâtrer un peu notre travail. Et je pense qu'il y a certainement une marge pour essayer d'aborder même le sujet avec la personne, parce qu'on a une certaine empathie sur le sujet. On voit très bien quel est le problème, justement. Et je pense que c'est peut-être ça qui est beau, en fait, en ayant une réflexion sur le travail en tant que chrétien, c'est qu'en fait, on a des clés que les gens autour de nous n'ont pas. Et je pense que là, par exemple, cette personne-là ne se rend sans doute pas compte du fait qu'elle est idolâtre, mais dans le sens qu'elle est asservie en fait par ça. Parce que justement, comme je disais, c'est quelque chose qui nous promet satisfaction, mais qui va nous laisser vide. C'est quelque chose qui exige de nous beaucoup plus qu'elle n'offre. Et en fait, elle va finir par s'en rendre compte de ça. Et le problème, c'est qu'elle ne le sait pas, alors que vous le savez. Et je pense qu'on a non seulement une responsabilité, mais je pense qu'il y a peut-être un moyen d'aborder la chose comme ça. Après, c'est difficile, je ne sais pas où en est la relation, parce qu'évidemment, si c'est quelqu'un qui est très, très dur, très distant, c'est peut-être autre chose. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant que chrétien. C'est ça qui est beau en pensant au fait qu'en tant que chrétien, on est chrétien au travail. C'est qu'on a ces clés-là que les gens n'ont pas. Voilà. Mais est-ce que vous voulez revenir ou est-ce que c'est...
En effet, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a un rôle à jouer. Ouais. Mais après, c'est vraiment très compliqué. En l'occurrence, bon, dans mon cas, c'est quelqu'un de pervers narcissique, donc c'est un peu compliqué.
Ouais, bien sûr.
Mais je demande tous les jours à Dieu de me donner la patience et l'occasion de lui en parler. Ouais. Des fois, il y a des petites ouvertures et j'espère qu'au compte-gouttes, je vais réussir. Mais c'est compliqué, en tout cas. Ouais.
Je pense que, au-delà de ça, justement, si on parle d'une personne dans ce cas-là, il y a aussi un moment où... parce que là je parlais du fait de rester dans son travail, etc., le fait qu'il ne faut pas forcément toujours être en train d'essayer de changer, etc. Je pense qu'il y a des situations tout à fait légitimes où on est peut-être appelé à changer de travail, ou, etc. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je dis juste pour que ce soit clair, quoi.
Ouais. C'est... Oui.
Si vous voulez répondre vous-même aux questions qui sont proposées, n'hésitez pas. Hein, aussi. Donc, vous
pouvez juste savoir si c'était maintenant qu'on pouvait dire un témoignage ou entre les deux.
Oui, maintenant, allez-y. Ouais, si quelque chose, par exemple, de ce que j'ai dit vous a parlé, vous voulez rebondir, allez-y.
Tout ce que vous avez dit, bien sûr, m'a parlé. Je suis à quelques années de la retraite, mais le Seigneur a permis que je m'arrête de travailler avant. Ouais. Il a permis que je puisse vivre des choses assez difficiles, et notamment un licenciement. Et bien sûr que ça a été difficile, mais il m'a mis dans le cœur. Alors je me suis posé plein de questions, pourquoi ça arrive, etc. Et très rapidement, il m'a mis dans le cœur que je dois travailler à mon salut. Mmh. Et cette notion de travail dans le salut, ça m'a parlé. Et je me suis dit, ça m'a mis un baume sur le cœur en me disant, c'est pas cette forme de travail-là que j'exerçais depuis toujours, que dans lequel je dois continuer, mais dans une autre forme que le Seigneur va me montrer.
Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment ce que j'essaie de dire, justement, qu'il y a ce problème où on lit tellement travail et salaire, et qu'en fait, justement, je pense pour les gens au chômage, à la retraite, il y a quand même aussi des moyens de pouvoir servir le Seigneur de différentes manières, en fait.
Bonjour.
Bonjour.
Et je pense que je voudrais te poser une question. C'est dans mon cas personnel, je n'aime pas trop ce que j'ai fait. C'était le choix pour pouvoir venir en France. Mes parents n'avaient pas l'argent pour pouvoir suivre ma passion. Comment équilibrer l'effet de vouloir faire une autre chose pendant des années, sentir, avoir la sensation que tu es gaspillé dans ce que tu fais, mais en même temps, que ça ne devienne pas ton idole.
Que l'autre chose ne devienne pas une idole,
Que cette idée de pouvoir changer, de pouvoir faire ça, de changer, ça ne devienne pas ton idole. Ouais. Comment tu peux garder un équilibre? Ouais. Et aussi dans mon cas, bon, sortir, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des conflits qui sont produits. Donc, tant que chrétien, tu es oublié à plutôt être gentil que... qui a créé des conflits, etc.
Ouais. Je pense que par rapport à cette question, justement, de quand on reste dans... Est-ce qu'il faut rester dans le travail? Je suis frustré dans mon travail, est-ce qu'il faut que j'y reste? Est-ce qu'il faut que je change, etc. Ou dans ce cas où on pense qu'on aimerait faire autre chose et on est coincé dans un travail. Je pense qu'il y a un passage très important du Nouveau Testament qui nous aide, c'est en 1 Corinthiens 7, où Paul dit que partout où Dieu nous a mis, on peut suivre son appel partout où il nous a appelés, en fait. S'il nous a appelés... à tel travail, on peut suivre son appel. Et il dit ça à des esclaves. Donc il dit, en tant qu'esclave, vous pouvez parfaitement suivre le Seigneur là où vous êtes. Mais en même temps, il leur dit, si vous pouvez vous libérer, si vous pouvez vous affranchir, faites-le. Et je pense qu'on doit garder cet équilibre, c'est-à-dire que dans le travail où vous êtes maintenant, et où vous êtes frustré, vous devez vous dire, c'est là que Dieu m'a mis et je peux le servir là où je suis. J'ai pas besoin de changer pour le servir. Mais effectivement, moi je pense que si vous êtes doué pour autre chose, et ça il faut peut-être voir avec l'entourage, ce qu'ils vous disent sur vos talents et ce que vous connaissez de ce que vous pouvez faire, il y a une légitimité à se dire, ce que je fais maintenant, ça me permet pas d'utiliser mes dons pour servir Dieu et les autres. Si Dieu vous a doué pour quelque chose, c'est pour le servir et les autres, pour le mettre au service des autres. Si une opportunité se crée, il faut la saisir et changer et prendre ce travail-là.
Ouais. Ok. Et une autre question, si ça dérange personne. Et par exemple, quand j'étais au Mexique, j'aimais beaucoup faire la politique, c'est-à-dire rester chez moi. Ouais. Et donc, je pense que Satan se présente comme un être des Lumières.
Pardon, je comprends.
Satan se présente comme un être des Lumières.
Ok.
Et donc...
Pardon, oui.
À un moment donné, comment faire cette distance? Parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais dans certains métiers, tu es vraiment confronté au fait de, pour y être, tu dois faire quelque chose de mauvaise, mais que tu penses que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Quoi. C'est toujours ces compromis vraiment à jouer.
Alors, il y a des exemples de chrétiens qui sont entrés en politique. Je vais parler d'un exemple tout à l'heure, dans le deuxième message, justement. Et donc, je pense qu'on devrait, en tant que chrétien, encourager ça, des chrétiens qui s'impliquent en politique. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, mais c'est vrai dans d'autres domaines, le domaine des médias, vous travaillez dans la publicité, vous devez avoir le sentiment parfois de mentir. Enfin, ou cet ami dont je parlais, mathématicien, il fait de la recherche dans ce domaine-là aussi. Vous devez entrer dans le système si vous voulez avoir les fonds. Je pense qu'en fait, où qu'on soit... on va être confronté à ce genre de choses. Et donc, il faut simplement se rappeler que... Je prenais même mon exemple, libraire, ce n'est pas un travail très glamour, mais même dans ce milieu-là, voilà, j'ai été confronté à cette question, est-ce que je vais mentir pour vendre ou pas, et ne pas vendre. Donc, je pense que dans tous les domaines, quel que soit notre travail, on est confronté à ces questions morales, ces questions difficiles sur lesquelles on doit travailler en tant que chrétien. Et c'est pourquoi que c'est une question extrêmement importante. Je pense qu'on doit en parler en Église, réfléchir comment est-ce qu'on aborde tous ces sujets. Mais je ne pense pas que le fait de penser à la politique et se dire oui, il y aura des dangers et peut-être des compromis qui risquent je risque d'être tenté de faire des compromis, etc. Je ne pense pas que ça doive nous bloquer parce qu'il y en aura dans tous les domaines, je crois.
Non, mais okay. Oui, je comprends, mais c'était plutôt dans le sens que parfois, je pense, soit on peut faire des grandes choses pour Dieu ou pour les diables sur Terre. Mm. Donc, et parfois, j'ai connu des gens qui croyaient qu'ils faisaient des choses pour Dieu quand ce n'était pas le cas.
Ouais. On verra ça dans le deuxième message, un peu plus ce que ça signifie de travailler pour Dieu. Alors. Ouais.
Il y avait une autre question.
Peut-être une remarque sur la bonté du travail. Mm-hmm. Quand on réfléchit sur la bonté du travail, on pense souvent en termes de ce que le travail peut produire, mais il me semble que le travail, c'est aussi quelque chose où on reçoit. Alors, on va au travail pour produire et être payé, mais la bonté du travail, il me semble, c'est aussi finalement un don qui nous est fait parce qu'il nous inscrit dans des relations sociales et c'est aussi un lieu où on peut progresser. C'est une école.
Tout à fait. Ouais. Et, ouais, c'est tout à fait. Ouais. C'est un bon point. Ouais.
Tu rappelais tout à l'heure justement cet héritage platoniste qu'on a, qui fait cette distinction donc, entre le travail intellectuel et manuel, qui n'est pas biblique, et on est dans une société qui crée une distinction, donc voilà, qui crée un ordre de valeur entre ces deux types de travail. Quand on regarde les églises évangéliques et les chrétiens, ouais, souvent on constate qu'il y a des professions qui sont surreprésentées. Je pense à l'éducation, au médico-social. Moi-même, j'ai eu une formation d'éducateur spécialisé, ou à,
ouais, le médical aussi, on a beaucoup de personnes qui sont dans le corps médical. Et on a inversement voilà, des corps de métiers, des grandes tranches de la vie de la société où les chrétiens semblent complètement absents. Mmh. Je pense justement, on a parlé de la politique, on pourrait parler de la finance, mmh. Des métiers qui tournent autour des arts, des métiers autour du droit. Est-ce que, selon toi, ça relève d'une question théologique, d'une mauvaise vision, qu'il y aurait un travail, un type de travail qui serait plus digne, une dignité quelque part, et un manque de dignité dans d'autres travaux, alors qu'on reste...
Je dirais qu'il y a une question théologique et puis une question plus pratique.
La deuxième partie c'est de cette question, c'est comment est-ce que l'Église peut aider à avoir une vraie et bonne vision biblique du travail, c'est-à-dire que tout le type de travail est digne.
Il y a un point théologique, et en fait je vais l'aborder plus dans le deuxième message sur cette question, justement, là tu parles de cette question de certains travaux qui sont très représentés dans l'Église et d'autres moins. Moi je pense aussi souvent dans les églises évangéliques, on a ce sentiment que le travail pour l'Église, le travail religieux entre guillemets, est quelque part un petit peu supérieur quand même au travail séculier, donc je vais beaucoup parler de ça tout à l'heure, ce qui est absolument faux. Donc je pense qu'il y a un problème théologique qui est là et qui est effectivement un dualisme, une séparation entre le spirituel et le profane. Donc j'en parlerai plus tout à l'heure, je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus, mais je pense que la question pratique, c'est aussi plus peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que beaucoup de chrétiens, quand ils considèrent finalement le monde du travail, voient certains métiers où effectivement ils vont peut-être plus directement et plus rapidement être confrontés à des difficultés, à des compromis qu'ils devront faire. Tu parles de la finance ou la politique, justement. Je pense qu'en tant que chrétien, on voit ça et on sait peut-être déjà d'avance qu'il y aura des combats à mener d'un point de vue moral et au niveau de notre foi. Alors que quand on entre dans une profession comme l'enseignement et le monde médical, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, mais ils sont moins évidents et moins directs. Donc je pense qu'il y a sans doute un point là-dessus. Comment est-ce que l'Église peut aider? Je pense justement en essayant de montrer que tout travail a une dignité intellectuelle et manuelle, que ce dualisme aussi entre justement le spirituel d'un côté et le profane de l'autre n'est pas biblique, qu'il est complètement anti-biblique même, et donc j'en parlerai tout à l'heure. Je pense que c'est plus au niveau de nos compréhensions qu'on doit faire un chemin. Je sais pas ce que je dis. Ouais.
Mais du coup, la réflexion, elle est justement, on voit c'est clair qu'il y a des branches.
Ouais.
La finance, on sait que c'est un monde... Donc c'est clair qu'il y a des branches comme la finance, où on sait que c'est un monde de requins, on sait qu'il va avoir des dilemmes moraux, mais en tant que citoyen du royaume de Dieu, et où on est à appeler à servir l'extension de ce royaume de Dieu, est-ce que finalement on ne se prive pas d'une mission qui nous a adressée, et est-ce qu'on pourrait... Enfin moi ma réflexion c'est est-ce que l'Église ne pourrait pas aider les personnes qui veulent s'engager dans ces milieux-là à le vivre avec une éthique, enfin, tu vois, comment concrètement on pourrait aider les chrétiens à s'investir dans ces milieux-là pour faire rayonner le royaume de Dieu.
Non, je pense que c'est sûr, mais ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que je pense que souvent si on n'entre pas dans ces métiers-là, c'est un peu par crainte, on ne sait pas ce que ça veut dire qu'être chrétien dans ce milieu-là, et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire en tant qu'église, mais même plus généralement, je pense que ce serait intéressant en fait, de voir plus dans nos églises des sortes de groupes de discussion entre les professions qui se ressemblent, des gens qui peuvent partager ensemble leur expérience, s'encourager, donner des points théologiques, lire des livres ensemble, et puis donc peut-être en particulier dans ces domaines-là où se trouvent peu de chrétiens, essayer d'encourager à lire des livres sur la question. Il y a un livre qui vient de paraître en français, que je n'ai pas ici, mais qui s'appelle « Le business à la gloire de Dieu », qui s'adresse justement aux personnes dans des postes cadres, dans la finance ou peu importe, mais qui les aide à réfléchir, à avoir des principes bibliques sur la question. Donc je pense, oui, il faudrait vraiment encourager ça, peut-être par des groupes de discussion.
Une question là. Il y a encore deux. Voilà, là-bas au fond et devant. Peut-être qu'on commence là-bas au fond. J'ai donné la parole. Voilà. Et après, il y a Ricardo aussi qui aura besoin de nous.
Ok. Vous avez dit qu'il faudrait accepter les boulots qui sont en deçà de nos qualité. Mais j'aimerais savoir si accepter cela ne va pas venir ajouter à l'aspect entre guillemets frustration que comporte le travail.
Je, pense que comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne, si on accepte ça à reculons et qu'on se résigne à prendre ce poste, oui, ça va nous frustrer. Mais dans la vie chrétienne, on est appelé à accepter les choses, c'est-à-dire à les voir comme quelque chose que Dieu nous offre pour grandir. Et je pense que si on voit ce choix-là, justement, de finalement accepter un travail en dessous de nos qualifications comme ça, qu'on ne s'y résigne pas, mais qu'on l'accepte comme quelque chose que Dieu nous donne pour nous permettre de grandir, je ne pense pas. Je pense que oui, on va être frustré, mais on va voir ça comme une occasion de grandir. Et je sais que c'est facile à dire, évidemment. C'est autre chose de le vivre, mais je pense pas nécessairement. Ouais.
Moi, je voulais juste, par rapport à ce que Raph a dit, tout ça, en fait, je trouve qu'il y a des choses qui sont... En fait, c'est plus j'approfondis certains sujets dans la Bible, plus je me rends compte à quel point les réponses ne sont pas binaires.
C'est vrai.
Ni par oui, ni par non. Et en fait, Dieu, il nous montre à quel point on doit vraiment lui demander de nous aider à avoir de la sagesse. Et c'est vrai que cette question, sur le travail, des fois, c'est compliqué. Par exemple, tu as le livre de Keller, et lui, par exemple, il a vu arriver quelqu'un dans son église, acteur de cinéma, qui lui demande concrètement, mais écoute, c'est bien gentil, tu me dis de venir à l'église, de venir à des rencontres et tout ça, mais moi, dans mon quotidien, c'est quel rôle j'accepte, quel rôle je refuse, etc.
Tout à fait.
Et en fait, on arrive sur des questions où, en fait, c'est difficile. Et à part accompagner la personne et dire, écoute, je vais prier pour toi, parce que je pense que tu dois briller dans ce milieu, et que je ne t'encourage pas forcément à le quitter, même si je vois toutes les difficultés qui sont dans ton milieu. Je pense que le rôle de l'Église est de prier, d'encourager, de sortir peut-être de ces choses un peu binaires, oui et non, et d'accepter que, oui, c'est dans le monde de Genèse 3 qu'on vit, et que peut-être dans la vocation que Dieu, dans l'appel, dans ce que Dieu veut qu'on fasse, et ben, des fois, il y aura des choses difficiles. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. Par exemple, pour cet acteur, je ne sais pas ce que lui a dit. Enfin, je ne sais pas si toi qui as lu beaucoup de...
Je ne me souviens plus de ce passage, mais ouais. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que justement, je pense, comme tu disais aussi avant, Raphaël, il y a des domaines professionnels qui sont plus durs que d'autres à vivre en tant que chrétien. Et on devrait particulièrement encourager les gens qui sont dans ces domaines-là. S'ils les ont choisis, même typiquement acteurs, ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été choisi pour des mauvaises raisons, parce que c'est un milieu difficile pour les chrétiens. Ça peut avoir été choisi pour des très bonnes raisons. Cette personne est douée pour ça et qu'elle a justement besoin d'encore plus d'accompagnement et d'aide pour arriver à gérer ces zones totalement grises, en fait, où elle va devoir faire des choix et où ce ne sera pas binaire, comme tu dis. Ouais. Donc, un gros travail pour l'Église, je pense. Et vraiment, ça, c'est... moi, j'aimerais vous encourager parce que, vous savez, dans l'Église, et c'est ce que j'essaie de vivre un peu dans mon Église, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent venir de devant. On peut enseigner sur des tas de sujets, d'un point de vue théologique, etc. Mais il y a des sujets où ça doit venir de l'Église. Et je pense qu'en particulier, le sujet du travail... c'est une chose qui doit se vivre entre nous, où il y a des initiatives qui doivent venir pour en discuter et pour avoir des groupes de discussion. Je pense que c'est vraiment important, en fait. C'est très, très important. Donc, j'aimerais vous encourager.
Bonsoir. Je vais juste rebondir sur la question qui a été posée, de savoir... est-ce que le fait d'accepter un travail qui est en deçà de nos qualifications ne va pas générer de la frustration ? Moi, je voulais juste dire que parfois, on est amené à faire ce qu'on ne veut pas forcément, ce qui ne correspond pas forcément à nos qualifications, mais ce n'est pas, il ne faudrait pas qu'on le prenne. Comment dire ça, que ce soit dégradant pour nous, parce que parfois aussi le Seigneur veut nous travailler notre humilité, travailler la Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Parfois le Seigneur a besoin de travailler aussi notre caractère, et quand on a l'opportunité de travailler, quel que soit le travail, il faudrait qu'on le vive vraiment comme une grâce, en étant reconnaissant de ce que Dieu nous permette de travailler. Je prends mon témoignage, je suis arrivé en France, j'étais étudiant, il a fallu que je travaille pour vivre, pour payer mes études, parce que mes parents aussi n'avaient pas beaucoup de moyens pour que je fasse de grandes et hautes études. Et il a fallu que je travaille, j'ai été agent de sécurité, en plein hiver, dans le froid, c'était dur, mais je le prenais vraiment comme une grâce. Et je pense que le Seigneur bénit les petits commencements. Voilà.